Donc, bienvenue pour cet après-midi cinéma en bibliothèque. Et l'après-midi est consacré à l'innovation. Et on va commencer avec Agnès Salson, qui donc va nous présenter le tour d'Europe des cinémas. Après la petite bande-annonce.
Si tu entends une voix, c'est devenu notre voix, ce n'est pas la tienne, pourtant c'est ta propre voix, elle est en toi. J'entends ma voix résonner dans ma tête, mais je l'entends aussi prendre le chemin des écoles, traverser la pièce et revenir à mes oreilles, le chemin de l'audition, le chemin de la voix, de façon pour le sujet de s'entendre parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si tu parles, il est vrai que tu t'entends, mais si tu entends, tu ne parles pas. Si tu entends une voix, c'est la voix d'un autre, ce n'est pas la tienne, pourtant c'est ta propre voix, elle est en toi. J'entends ma voix résonner dans ma tête, mais je l'entends aussi prendre le chemin des écoles, traverser la pièce et revenir à mes oreilles, le chemin de l'audition, le chemin de la voix, de façon pour le sujet de s'entendre parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si tu parles, il est vrai que tu t'entends, mais si tu entends, tu ne parles pas. Si tu entends une voix, c'est la voix d'un autre, ce n'est pas la tienne, pourtant c'est ta propre voix, elle est en toi. J'entends ma voix résonner dans ma tête, mais je l'entends aussi prendre le chemin des écoles, traverser la pièce et revenir à mes oreilles, le chemin de l'audition, le chemin de la voix, de façon pour le sujet de s'entendre parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si tu parles, il est vrai que tu t'entends, mais si tu entends, tu ne parles pas.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un panorama des pratiques innovantes dans les salles de cinéma. Donc ça va faire la transition avec la fin de la matinée. Quels sont les liens entre les cinémas et les bibliothèques? Moi, je vais vous présenter plutôt les pratiques innovantes qui se déroulent dans les salles de cinéma. Je vais boire juste un peu d'eau avant de démarrer parce que j'ai tendance à parler un peu vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire de ralentir si ça va trop vite. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Agnès Salson, je suis diplômée de la section exploitation-distribution de la FEMIS, qui est l'école nationale de cinéma. J'étudie en fait les formes d'innovation dans les salles de cinéma et j'écris également pour des revues, comme dernièrement on a écrit un article, un dossier sur les salles de cinéma en Europe pour les cahiers du cinéma. J'écris aussi sur l'innovation pour les écrans, en fait, qui est une revue de cinéma professionnel. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du projet Tour des cinémas que j'ai porté avec mon partenaire Michael Arnal. Donc, il est nécessaire d'aborder ces questions et de réfléchir aux enjeux de l'exploitation cinématographique. Mais avant ça, je voulais faire un lien avec la journée en fait, qui nous réunit ici aujourd'hui. Parce que tout comme les salles de cinéma, vous êtes là parce que vous vous interrogez vous aussi sur la place nouvelle et le rôle des bibliothèques et des médiathèques dans une société qu'on peut définir comme aujourd'hui numérique. Donc les bibliothèques et les médiathèques, elles se sont emparées, comme on l'a vu ce matin, de la projection de films depuis bien longtemps et elles cherchent à cultiver des collaborations avec la salle, notamment comme on vient de le voir avec le mois du film documentaire. Et comme les salles de cinéma, les bibliothèques et les médiathèques, elles vont au-delà de la projection de longs métrages. Elles s'approprient, on l'a aussi vu durant la table ronde ce matin, le jeu vidéo, la création d'espaces DIY, la création de contenu depuis le lieu, la participation nouvelle des publics. Et on voit comme ça que les médiathèques, elles tentent de s'emparer finalement de ces enjeux qui sont nouveaux, qui sont liés au numérique, de montrer de nouveaux contenus et de développer de nouvelles animations dans leur lieu. Donc tout ça pour dire en fait qu'il y a de nombreux ponts entre les pratiques développées dans les salles de cinéma et les médiathèques. Et pour revenir à la salle de cinéma, on se questionne aujourd'hui sur la salle de demain, car la salle de cinéma a subi de nombreux bouleversements. Tout d'abord, on pourrait dire que de nouvelles pratiques et de nouveaux usages se développent dans la salle de cinéma, qui n'est plus le lieu unique pour découvrir des œuvres aujourd'hui. Les spectateurs ils peuvent découvrir des films sur une multiplicité de supports, de manière légale ou non d'ailleurs, sur des écrans tout petits ou des écrans énormes. Et donc à cette époque en fait, où on peut voir des films partout, on peut se demander à quoi ressemblera la salle de cinéma de demain et quel est son rôle. On observe également, on en parlait ce matin, d'un vieillissement du public dans de nombreux cinémas, qu'on pourrait peut-être généraliser à beaucoup de lieux culturels. Donc ça pose la question d'aujourd'hui avec ce vieillissement d'une partie du public, comment on repense des lieux adaptés à une nouvelle génération de spectateurs. Donc face à ces nombreuses mutations, nous on a pu observer que la salle elle se réinventait et qu'elle trouvait une nouvelle jeunesse. Le lien entre les salles et les spectateurs il se renforce. Les salles elles peuvent désormais impliquer les spectateurs dans la vie des cinémas, former ce qu'on pourrait appeler une communauté active. Les salles, elles enrichissent, elles développent leur offre traditionnelle au-delà de la diffusion de longs métrages pour renforcer en fait quelque part leur rôle de dénicheur. Elles renforcent aussi leur identité grâce à une capacité nouvelle à produire du contenu éditorial depuis la salle, à communiquer depuis la vie de la salle sur des supports qu'ils soient des supports physiques ou peut-être aujourd'hui des supports aussi virtuels, ce qui renforce en fait la singularité, leur image auprès du public. Donc tout ça pour dire que les salles de cinéma aujourd'hui, elles sont plus que des salles de cinéma. Autour de la salle, en fait, comme espace de diffusion traditionnel de films, on peut voir que de nouveaux espaces additionnels se développent et qu'à partir de ces nouveaux espaces, de nouveaux usages s'inventent. Les cinémas, ils étendent leur activité traditionnelle de diffuseur à de nouvelles activités pour fidéliser de nouveaux publics, mais aussi, évidemment, pour générer de nouvelles ressources en vue de générer un modèle économique qui puisse être plus agile. Enfin, juste dans les tendances comme ça, rapidement, la dernière qu'on a pu observer, c'est la coopération qui apparaît aujourd'hui comme une philosophie centrale. On a retrouvé une volonté commune de travailler hors des compétitions territoriales, dans la mise en place de partage d'expériences, de coopération sur un même territoire, et ou d'échanges d'outils très pratiques, en fait, entre les salles de cinéma. Donc, toutes ces tendances, en fait, moi, je vais vous les présenter plus en détail, illustrées avec des salles de cinéma. Mais avant de vous parler de tout cela, j'aimerais vous présenter très rapidement l'initiative du Tour des cinémas et pour le coup vous expliquer un peu d'où je parle. Pendant ces deux dernières années, j'ai voyagé à travers l'Europe avec mon partenaire Michael Arnal à la découverte d'initiatives innovantes dans des salles de cinéma indépendantes. Donc on a visité plus de 200 cinémas dans environ une vingtaine de pays et on a partagé toutes nos découvertes sur notre site web tourdescinemas.com qui comporte une boîte à idées et des choses que vous pourrez reprendre, je pense, qui peuvent faire sens par rapport à vos pratiques et votre métier. On a aussi rédigé des articles, publié des photographies, des vidéos, fait une web-série. On monte actuellement un long métrage de tous ces contenus. On a aussi écrit un livre, Rêver les cinémas demain, qui retrace toutes les découvertes de notre Tour de France, qui a été publié aux éditions Henri Dougier l'année dernière ou l'année d'avant, plus un rapport qu'on a rendu au CNC sur les tendances émergentes de l'exploitation cinématographique en Europe suite à notre Tour d'Europe qui vient d'être traduit en anglais grâce à une communauté en fait autour de notre projet de bénévoles qui ont traduit en fait tout ce rapport et d'un organisme anglais, l'ICO, Independent Cinema Office, qui a fait comme ça une proofreading pour nous permettre de corriger et d'améliorer le rapport. Donc comme quoi, la communauté, on en parlera en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui permet aussi aujourd'hui de développer les salles de cinéma et de les ancrer dans la vie culturelle. Ce qu'on souhaitait, quand on a démarré ce tour des cinémas, c'était avant tout nous trouver de l'inspiration et des conseils pour créer notre propre salle de cinéma, mais aussi répondre à la question... À quoi ressemblera la salle indépendante de demain ? Le but, quelque part, c'était de trouver des réponses créatives que les salles avaient su trouver pour entretenir une culture de la sortie en salle adaptée à leur territoire, à leurs spécificités sociales, politiques, culturelles, mais aussi, nous, à notre échelle, de se demander quelles étaient les pratiques qu'on voudrait reprendre, comment on lançait une salle de cinéma aujourd'hui. Et partout où on est allé, quel que soit l'état de l'exploitation cinématographique dans chaque pays, il y a toujours des gens qui veulent ouvrir des cinémas, qu'ils soient créés de zéro ou que ce soit des projets de reprise, c'est la première chose que je tenais à vous dire, c'est qu'il y a un élan aujourd'hui. On peut dire que la salle n'est pas sur le point de mourir, contrairement à ce que les journalistes et la presse tendent à nous faire croire, et que Netflix n'est plus pas le seul moyen aujourd'hui de découvrir des films. Donc je vais tenter de résumer ces mois et ces années de recherche et de découverte en quelques minutes. Donc le premier sujet sur lequel j'aimerais me concentrer aujourd'hui, c'est la relation nouvelle des cinémas au public. Pendant le tour des cinémas, on a réalisé que le lien entre les cinémas et leur public, il s'était renforcé. Grâce aux outils numériques, et plus particulièrement aux réseaux sociaux, l'implication des publics, elle est plus forte, et ce, à de nombreux niveaux. On voit notamment que les publics, aujourd'hui, peuvent aider les cinémas à être financés, et plus tard, peuvent les aider à être programmés ou les aider à les animer. Donc ce qu'on voit, c'est que le spectateur, il est au cœur du renouveau des salles de cinéma et que fidéliser cette communauté, c'est devenu un enjeu majeur pour ces salles. La première salle, le Noumax à Saint-Jacques-de-Compostelle, est un cinéma qui a ouvert en mars 2015. Les futurs spectateurs ont aidé à financer ce cinéma en garantissant ce qu'on peut appeler le prêt nécessaire à financer le lieu par un système de prêt coopératif. Donc grâce à la communauté locale, le Noumax a été en mesure de sécuriser 300 000 euros sur un budget total de 500 000 euros. Donc on est en Espagne, dans un pays qui est frappé par la crise 2012, où il n'y a pas d'aide publique, et leur seul moyen finalement d'ouvrir un cinéma, c'est de faire appel à cette communauté. En mars 2016, juste quelques mois avant qu'on passe les... on les a vus en 2015. Donc un an après qu'on leur rende visite, et un an après que le lieu est ouvert, le Numax atteignait les 30 000 entrées, ce qui est énorme pour une salle de cinéma mono-écran de 70 places, et y rejoignait le réseau Europa Cinéma, un réseau de salles qui défend le cinéma européen. Cine Ciutat, à Palma de Mallorca, qui est un cinéma donc, sur l'île de Mallorca en Espagne, qui lui a été sauvé de la fermeture par ses citoyens. Donc, en fait, rapidement pour vous expliquer ce qui s'est passé, il dépendait du réseau Renoir, un réseau de salles espagnoles. Et ce réseau, pendant la transition numérique, a dit « Beaucoup de salles ne sont plus rentables, donc on doit les fermer ». Quand ils l'ont annoncé aux habitants, les habitants se sont réunis pour faire une soirée, une journée d'adieu au cinéma. Et en fait, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu, parce qu'ils ont dit ben, « on va pas le laisser tomber, quoi. On va créer un compte en banque et on va voir s'il y a assez de gens qui sont motivés pour reprendre ce cinéma ». Aujourd'hui, c'est une structure associative. En fait, les membres gèrent le cinéma. C'est clairement une expérimentation pionnière en Espagne et un modèle d'autogestion. Surtout, que je ne vous l'ai pas dit, là, on a vu le Numax et Cine Ciutat, qui sont deux cinémas espagnols. Mais peut-être pour vous donner un contexte, en Espagne, il y a 30% des salles qui ont fermé entre 2000 et 2010. Donc une chute énorme de cinéma. Et aujourd'hui, on assiste à un véritable renouveau avec des cinémas qui sont fortement ancrés dans ces communautés, comme on le voit là, en fait. Avec ces deux exemples, les cinémas sont souvent soutenus, financés par les citoyens, souvent créés sous forme de coopératives, donc des structures de l'économie sociale et solidaire, où les gens s'associent et associent souvent des citoyens dans le montage des projets pour remettre le cinéma au cœur de la vie de la société. D'autres cinémas utilisent le crowdfunding pour être financés, mais aussi et surtout pour faire parler des projets et construire encore cette communauté active autour. Donc le Postmodernissimo, qui a réussi à lever en Italie 20 000 euros pour le lancement de son cinéma, ou le Wolf Kino, il n'y a pas très longtemps, à Berlin, qui a levé 50 000 euros. Le mouvement, finalement, le plus important qu'on a découvert, c'est celui des community cinéma au Royaume-Uni, où il existe plus de 250 cinémas qui sont créés et gérés par des citoyens. Donc voilà, ça peut aller très très loin, cette implication des spectateurs. Les communautés, elles peuvent non seulement se réunir pour soutenir un cinéma local, comme on le voit finalement en France, via des cinémas associatifs où des communautés s'engagent pour soutenir des cinémas, mais elles peuvent également s'unir pour en créer. L'un des étendards de ce mouvement, c'est le Deptford Cinema, qui a été créé dans le sud-est de Londres en 2014, dans le quartier de Lewisham, pour ceux qui connaissent, où il n'y avait plus de cinéma. C'était le dernier quartier de Londres, en fait, où il n'y avait plus de cinéma. Juste pour une petite information, encore une fois, sur la particularité anglaise, à Londres, le prix d'un billet, il peut s'élever jusqu'à 19 pounds, ce qui est environ 25 euros. Donc, voilà, il y avait vraiment un besoin de rendre le cinéma accessible. La philosophie du Deptford Cinema, c'était de rendre le cinéma accessible à tous. Donc l'histoire, rapidement, en fait, elle a commencé quand ils ont découvert un bâtiment qui était resté vide depuis plus de 15 ans dans leur quartier. Via une campagne de crowdfunding, ils ont réussi à collecter plus de 7000 livres pour payer les projecteurs et lancer le projet. Et le cinéma, il a été entièrement construit durant ce qu'ils appellent des semaines de construction, des building weeks. Le principe, il est très simple, en fait, derrière ces semaines de construction. C'est des bénévoles qui se sont réunis et qui ont travaillé ensemble pour offrir leurs compétences, leurs connaissances au projet, qu'il s'agisse de construire un mur, d'insonoriser une pièce, de construire un bar, de construire l'écran ou les fauteuils. Et aujourd'hui, il y a maintenant plus de 700 personnes qui font du bénévolat pour ce cinéma. Et quiconque voudrait organiser une projection ou un événement est libre de le faire. Là, quand on l'a visité, le cinéma était encore en cours de construction, mais déjà ouvert au public. Il développe aussi du merchandising, plein de choses, et il y a vraiment une communauté très active autour de ce projet. Donc dans tous ces exemples, on peut voir finalement que la participation initiale de la communauté locale, c'était clairement la clé de leur succès. Impliquer de nouveaux publics dans les salles de cinéma, ça peut aussi être, comme on l'a vu ce matin dans les médiathèques, passer par des relais, des ambassadeurs du cinéma à une échelle locale. Donc là, je prends l'exemple du public adolescent, qui est souvent la problématique liée au vieillissement du public, comment on implique des jeunes. Donc je voulais vous parler du Kinotrip, qui est une initiative qui a été mise en place par le Kino Dvor, une salle à Ljubljana, en Slovénie. En fait, en 2015, l'équipe du Kino Dvor, elle a décidé de créer un nouveau programme à destination des jeunes, donc Kino Trip, un festival international des adolescents, pour eux et organisé par eux. Donc, en gros, l'idée, c'est que les adolescents, ils sont en charge de tous les aspects de la séance, de la programmation, de la promotion, de la confection de leurs réseaux sociaux. Et pour ça, ils ont été accompagnés. Donc, le cinéma a investi, il a cru en eux, ils ont embauché un graphiste qui travaillait avec ce groupe d'adolescents qui ont eux-mêmes choisi leur identité graphique. Ils ont été accompagnés sur la programmation, sur des prévisionnements. Donc, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été investis. Mais finalement, ça a eu un véritable succès puisque l'ambition, c'était quand même de lancer un festival international et de laisser à ces jeunes pas juste un petit espace et voilà. C'était pas juste pour dire on fait quelque chose pour les jeunes, mais c'était réellement pour pousser quelque part le concept au bout. Aujourd'hui, ce groupe de jeunes s'occupe également chaque semaine d'un ciné-club et ils ont l'occasion, en fait, ils travaillent main dans la main avec les programmateurs du cinéma. Donc, ils peuvent participer régulièrement à la programmation d'événements et participer à la vie de la salle. Ça a dépassé quelque part l'ambition initiale de juste créer un festival. Ils créent, juste pour vous donner quelques exemples, notamment quand Bande de filles était sortie en Slovénie, c'est eux qui s'étaient approprié le film, qui avaient fait venir un photocall, qui avaient mis de la musique, ils servaient à boire, et voilà. C'est devenu une ambiance un peu plus festive, et comme ça, ils ramenaient un public de leur génération. Le deuxième sujet sur lequel j'aimerais me concentrer aujourd'hui, c'est les nouveaux espaces qu'on a découverts dans les cinémas. Donc, les nouveaux espaces, c'est une question fondamentale dans l'identité des lieux. Pour se différencier, pour se distinguer, je vous le disais tout à l'heure, mais un cinéma, ça doit être plus qu'un cinéma, c'est un lieu de vie. Donc, encore une fois, les problématiques sont les mêmes. On pourrait parler de troisième lieu, je pense, dans les médiathèques. On en parle très peu dans les salles de cinéma. Mais être plus qu'un cinéma, ça peut passer par la création de cafés, d'un restaurant, d'une boutique, comme une librairie, une médiathèque, on verra l'exemple, d'une garderie ou encore, peut-être plus surprenant, d'espaces de création installés dans les cinémas. Donc ces nouveaux espaces, ils permettent quelque part d'étendre l'activité très traditionnelle de la salle de cinéma à la restauration, à la vente de livres, de DVD, à la création d'espaces de coworking, de post-production. Ils impliquent donc un renouveau des modèles économiques et offre en fait aux salles de cinéma la possibilité d'avoir des nouvelles sources de revenus. Donc juste pour vous donner quelques exemples de ces espaces, quelques images pour démarrer. Il Kino à Berlin, qui a un restaurant italien dans ses murs et qui a un cinéma mono-écran. Le Close Up à Londres, qui a un cinéma, en fait une salle de 40 places, où il diffuse principalement, je pourrais même dire exclusivement, du cinéma de répertoire. Mais aussi un café et une médiathèque de 19 000 titres. Donc ils ont aujourd'hui plus de titres, un catalogue plus grand que le BFI, le British Film Institute à Londres, et ils ont racheté le magazine Vertigo. Donc voilà, c'est vraiment dans leur ADN que de proposer cette offre. Concrètement, en fait, vous voyez là, ils ont des DVD, une offre DVD, et en sous-sol, un accès à des livres. Les gens s'abonnent et peuvent soit aller dans la salle de cinéma, soit dans le café, soit dans la médiathèque. À Amsterdam, dans la majorité des cinémas indépendants qu'on a vus, on pourrait dire la même chose de Berlin, l'accès aux salles se fait depuis les bars, qui sont des véritables lieux de vie. Ce n'est pas juste un espace à coller, on rentre par le bar et qui mène après aux salles de cinéma. Donc on le voit là, Criterion à Amsterdam, qui est un cinéma qui est particulièrement dynamique, qui est géré par des étudiants. Pour la petite histoire, juste pour que vous compreniez, c'est une fondation Criterion. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants, donc c'est une fondation qui embauche exclusivement des étudiants et qui leur permet de travailler dans le cinéma et ainsi de payer leurs études. Donc c'est un cinéma qui est juste géré par des étudiants et donc il y a un bar assez dynamique. Le Het Ketelhuis, qui est un lieu plus classique, mais qui a un bar, comme on le voit, bien rempli. The Movies, j'avoue, on a fait la photo entre quand il y avait un film, mais qui a aussi une belle activité, qui ont eux un pub et un restaurant. Et qui a une activité cinéma liée à ça. Ils diffusent plutôt des films américains cultes, voilà, dans la lignée de leur espace pub. Ici, le Cinéma Bureau à Rotterdam, toujours aux Pays-Bas, des espaces de post-production qui sont installés dans le cinéma. Le Kino, il a réouvert l'année dernière, en fin d'année. C'est un centre du cinéma avec 4 salles au rez-de-chaussée et un bistrot, avec un restaurateur, des espaces de coworking à l'étage. L'idée étant pour eux de rassembler en fait tous les créateurs du secteur de l'audiovisuel de Rotterdam dans un même lieu. Donc du festival de Rotterdam jusqu'à la boîte de prod locale, voilà. Que tous les gens soient rassemblés dans cet espace. Donc l'espace que vous voyez, bureau, il est installé dans les 800 mètres carrés au-dessus du cinéma. Il offre des services additionnels comme la possibilité d'utiliser des salles de cinéma quand elles sont libres, ce qui peut s'avérer très pratique, et deux studios multifonctions à l'étage pour faire du bruitage, avoir accès à des fonds verts ou faire de la post-production. Je vous en parlais tout à l'heure, le Numax, donc ce cinéma qui a été financé par ses spectateurs. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que le Numax, c'est aussi un cinéma où cohabitent de multiples activités. Cohabitent une librairie que vous pouvez voir au fond, un café au premier plan, et au sous-sol, ce qu'ils appellent un laboratoire de création graphique et vidéo. C'est-à-dire, en fait, le laboratoire de création graphique et vidéo, c'est quelque part une agence de com vidéo. C'est un espace qui propose des services de conception graphique, donc ils font des affiches, des trailers, des bandes-annonces. Un espace de production, de post-production audiovisuelle pour faire du sous-titrage, de la création de DCP. Ils ont aussi une agence de distribution, ils sont eux-mêmes distributeurs, et une régie publicitaire. Voilà. Donc c'est un cinéma qui est un peu comme ça, à 360, qui fait tout, et qui ne, voilà, n'est pas juste un espace de diffusion, mais qui distribue, qui a un café, une librairie, qui propose comme ça des ponts entre ses activités. Le Watershed à Bristol, que vous connaissez peut-être parce que c'est une véritable institution dans le monde aussi du numérique, a une salle de cinéma, un grand restaurant et un espace qu'ils appellent le Pervasive Media Studio, qui est un centre de recherche autour des nouvelles technologies, qu'on pourrait aussi définir comme un studio de création, où des artistes, des entreprises plutôt créatives, des technologistes, des universitaires se réunissent pour travailler ensemble. Donc là, vous voyez l'espace de travail qui est finalement dans le cinéma. Les gens qui sont les résidents de cet espace, ils travaillent sur des projets très divers, des projets commerciaux, des projets culturels, des performances, des écrans numériques, de la robotique, des objets connectés, de la musique, des projections. Donc voilà, on explose un peu le spectre de ce qu'on pourrait attendre depuis une salle de cinéma. On est vraiment dans un lieu un peu plus enrichi. On traverse l'Europe. Ça, c'est la Bulgarie. Donc, sur la côte de la mer Noire, à quelques kilomètres de la frontière turque, Lozenet accueille depuis 2014 un cinéma éphémère, le Up Outdoor Cinema. La structure en fait, qui abrite ce cinéma, elle a été conçue non pas par des exploitants, mais par une agence de design d'architectes. Donc, pour la petite histoire, en fait, cette structure, ce dôme, il était inutilisé tous les étés parce qu'ils étaient en congé. Et ils ont eu l'idée d'en faire un cinéma, puisqu'ils partaient en vacances et il y avait quand même une partie de l'agence qui travaillait. Et ils se sont dit, on va arrêter de travailler depuis la capitale Sofia, on va prendre nos dômes et on va les mettre au bord de la mer. L'idée en même temps, c'était de se dire, pourquoi pas l'ouvrir au public en soirée et ainsi pallier un manque de cinéma où on peut voir un film dans des conditions agréables, avec des amis, l'été, boire un verre. Donc pour construire ce lieu, en fait, c'est une équipe de 5 personnes qui se réunit et qui construit la salle en 24 heures. Et cette structure, pour vous donner une petite idée, j'ai pas mis de photo de l'intérieur, mais si ça vous intéresse, il y a un article qui détaille ce projet sur notre site. La structure, elle peut accueillir jusqu'à 30 personnes. Ils ont, pour revenir à cette idée d'espace, en fait, dans ce modèle, les architectes, ils ont vraiment apporté un soin au détail qui dépasse finalement peut-être ce qu'on attend d'un exploitant et qui s'inscrit dans une pensée plus globale autour de l'expérience du spectateur. Ils ont notamment conçu leur propre mobilier, tout l'environnement autour de la projection. Donc pour les années futures, cette équipe elle envisage évidemment de s'installer dans d'autres endroits pour élargir les propositions cinématographiques. Évidemment, les lieux ils n'ont pas encore été décidés, mais la souplesse de la structure et son faible impact sur l'environnement leur permet une certaine agilité et une variété de possibilités qui leur permet de s'installer un peu partout. Dans un même temps, donc on a vu toutes ces tendances liées aux espaces, dans un même temps, on voit une hausse de cinéma dédié à ce qu'on pourrait appeler du cinéma de niche. Donc en fait, j'appelle cinéma de niche des endroits, des salles de cinéma commerciales, exclusivement dédiées au cinéma expérimental, au cinéma de répertoire ou au cinéma documentaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout quand on est parti, d'imaginer voilà, qu'il y avait des salles de cinéma qui étaient entièrement dédiées à, quelque part, une catégorie de films. Donc ici, c'est le Docukino à Zagreb, qui a un programme 100% dédié au cinéma documentaire, mais qui organise également des programmes d'éducation à l'image, qui produit des films documentaires, et qui a même lancé une école pour former les jeunes réalisateurs documentaires, et qui a également une structure de distribution, évidemment, pour quand le film est produit, pouvoir le distribuer dans sa salle. Donc, eux, ils exposent la scène documentaire locale, nationale, internationale. Ils organisent des ateliers, des masterclass, des rétrospectives autour de ce qu'ils appellent les classiques, genre les 100 films à pas manquer du cinéma documentaire. Et plus que des simples projections, finalement, en étant comme ça, cet espace dédié à 360 au cinéma documentaire, il propose un espace de croisement pour toute une scène documentaire en Croatie. Et en se distinguant des autres cinémas réessais et des autres multiplexes, ils sont devenus une proposition complémentaire aux autres cinémas du même territoire et plus concurrente. Donc un modèle qui était très vertueux. On a vu d'autres cinémas, évidemment c'est que quelques exemples, mais on a vu d'autres cinémas documentaires à Londres. Certains multiplexes se sont emparés de cette problématique en développant des cinémas documentaires et en allant même jusqu'à créer des espaces en ligne pour capter les débats, les diffuser et quelque part lancer un peu un média prescripteur de la scène documentaire anglaise. La troisième tendance qu'on a observée, c'est que le cinéma, il enrichit son offre et de nombreuses manières. Certains cinémas accueillent de nouveaux contenus, comme les espaces, juste quelques exemples pour vous donner un petit aperçu. On l'a vu ce matin dans les médiathèques, proposent des séries télé, proposent des web documentaires. C'est la même chose pour les salles de cinéma qui s'emparent évidemment des nouveaux contenus, des nouveaux médias. Ciné Ciutat, l'expérience d'autogestion qu'on a vue sur l'île de Majorque en Espagne, a diffusé le dernier épisode de la troisième saison de Game of Thrones, faisant de cette diffusion un événement. Ou Il Kino, la salle à Berlin, qui est un restaurant italien, qui a diffusé la série Hey Matt, que vous connaissez peut-être, de Edgar Wright, chaque dimanche pendant 11 semaines pour l'ouverture du cinéma. Donc voilà, c'est des modèles qui diffèrent, mais la série télé, c'est clairement quelque chose dont on voit l'apparition en salle. Ça pose des questions de droit, principalement, parce que sinon les salles iraient beaucoup plus, mais elles peinent à trouver des droits pour montrer ces séries. Un cinéma a ouvert à Amsterdam, le VR Cinéma, qui est dédié à la réalité virtuelle. Là, je me concentre exclusivement sur des exemples européens, mais on le voit, MK2 qui s'est emparé aussi de cette problématique pour les salles de cinéma, avoir comme ça un espace showcase pour montrer de la réalité virtuelle et devenir distributeur de contenu, d'ailleurs, depuis quelques mois. Beaucoup d'autres cinémas se demandent comment intégrer ces nouveaux médias. On a vu du jeu vidéo sur grand écran, comme au Deptford, ce community cinéma à Londres qui organise des concours de jeux vidéo plutôt vintage, type Mario Kart, en soirée pour attirer un public plus jeune qui ne vient pas traditionnellement sur les autres séances. Donc c'est un moyen comme ça de lui faire découvrir le cinéma. On a vu au Toldi Mozi à Budapest, en Hongrie, des séances de clips vidéo sur grand écran qui permettent d'étendre la programmation de la salle. C'est aussi lié au fait que le Toldi Mozi dispose en fait d'un grand espace pour faire des concerts. Donc voilà l'idée de faire des ponts entre leurs activités. Le cinéma Gloria à Copenhague, qui héberge Copenhagen Radio Cinema, qui organise en fait, c'est une association qui organise tous les mois une session d'écoute collective avec des compilations de reportages et d'émissions radio enregistrées à travers le monde. Donc nous, c'était hyper surpris de voir ce genre de proposition dans une salle de cinéma. Donc il faut imaginer, la salle est noire. Il y a une petite lampe rouge qui s'allume quand le programme radio démarre. Et ces séances, elles cartonnent. En fait, elles font toujours complet. Ils sont obligés d'en refaire plein. Elles séduisent notamment un public très jeune. Les pays danois sont vraiment en train de se remettre à la radio. Il y a comme ça une demande, un appétit pour les contenus radiophoniques. Et ce public, en fait, il est prêt à payer presque 8 euros, 60 couronnes, pour assister à ces projections où il n'y a pas d'image en fait sur l'écran. Donc on peut imaginer, encore une fois, que cet espace cinéma, il peut servir à plein d'autres choses. Aujourd'hui du fait des nouvelles possibilités liées au numérique évidemment, mais aussi de l'inventivité que peuvent avoir les salles. Un dernier exemple sur cette idée aussi de contenu sonore, le cinéma Belvaux à Lausanne en Suisse, qui organise des séances d'écoute de CD. Donc eux en fait ils font des partenariats avec des labels pour la sortie de nouveaux albums et ils organisent des écoutes de CD en avant-première dans la salle. L'exploitant lui nous disait, est-ce que la salle c'est pas le meilleur endroit en fait pour écouter un CD? Il y a l'appareil. Il y a du son 7.1, il y a un super espace, un super écran aussi sonore. Donc voilà, ne pas l'oublier, il y a des créations évidemment aujourd'hui radiophoniques, je pense, qui intéressent certains d'entre vous. Donc la salle de cinéma s'en empare également. D'autres cinémas proposent d'accueillir la création locale. Et ils transforment ainsi, on pourrait dire, leur cinéma en un espace de croisement, de rencontre, qui s'intègre à un écosystème nouveau de création locale. Concrètement, certaines salles organisent ce qu'ils appellent des open screen, écrans ouverts, c'est la traduction, comme ici le Spoutnik à Berlin, on en a vu pas mal, il y a le Nouva à Bruxelles, le Chapter à Cardiff, enfin, il y a beaucoup de salles qui créent cette même séance open screen. En fait, concrètement, c'est un espace où des cinéastes peuvent venir pour montrer leurs films sans sélection préalable, ni par un jury, ni par un exploitant, ni par personne. En fait, ils viennent avec une clé USB. Il y a souvent un temps maximum imparti. Quelques critères à ne pas déroger, voilà, peut-être pas de cinéma porno, peut-être pas de... selon les salles. Parce que d'autres fonctionnent avec un panneau rouge. En fait, quand ça enfreint les règles qui sont déterminées par les spectateurs eux-mêmes, bah, ils montrent un panneau rouge et donc on change de film. Bon, ça, c'est vraiment des détails, mais en gros, ces séances, elles permettent à des cinéastes de montrer des contenus qui sont les leurs. Et comme ça, de non seulement les montrer à un public, mais aussi de se fédérer avec une communauté de créateurs à l'échelle d'un territoire. Rares sont les espaces aujourd'hui où les créateurs ont ces possibilités, notamment hors des capitales. Donc voilà, beaucoup de salles s'emparent de ces séances. Les cinémas, ils peuvent aussi profiter du numérique, évidemment, en offrant un espace de contenu éditorial en ligne, comme le Watershed, à Bristol, qui a créé sur leur site web un espace qu'ils appellent le D-Shed, où ils diffusent les enregistrements des événements. Donc ils filment en fait les événements qui peuvent avoir lieu en salle, ils les rediffusent sur leur site, des discussions qui sont retranscrites, les innovations via des articles rédigés par la salle, ou encore quand ils partent en festival sélectionner des films, ils font comme ça des journaux de bord où ils racontent tout leur travail de programmateur. C'est en quelque sorte, dit Shed, une vitrine du travail créatif de la salle. Et c'est important de se dire, voilà, aujourd'hui on a des supports papier, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur le web et comment on peut raccrocher le web à la salle? Quelqu'un en parlait ce matin, je ne me rappelle plus qui, je suis désolée, mais cette idée d'ancrage. On a des possibilités d'espace virtuel aujourd'hui, mais on a besoin aussi d'espace d'ancrage dans des salles ou dans d'autres lieux, en fait, pour les faire exister. Dans cette même salle, chaque mois, le programmateur du cinéma, Mark Cosgrove, il enregistre un podcast pour parler de ses choix de films où il défend en fait ses choix de programmation, les événements qu'il met en place directement au public. Donc on peut écouter après ses podcasts sur le site de la salle. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les cinémas, ils peuvent aussi produire des contenus éditoriaux additionnels, comme au Café des Images. Alors là, je fais juste une petite aparté parce que c'est en France, dans la banlieue de Caen, à Hérouville-Saint-Clair, qui a lancé une revue depuis la salle, où ils écrivent, ils rédigent en fait des articles, comme une revue quoi, cinéma, mais depuis la salle. Je voulais rapidement vous parler de l'offre VOD. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y aurait plein de choses à en dire. Aujourd'hui, des liens entre la VOD et la salle, et c'est une sacrée problématique, mais peut-être juste vous expliquer les initiatives qui sont portées par des salles de cinéma, de comment la salle de cinéma peut s'approprier la VOD. Donc la VOD, évidemment, ça peut être un relais. Ça peut permettre une extension de la programmation de la salle de cinéma par le biais d'un espace virtuel. Ça permet donc de prolonger le travail d'éditorialisation de la salle de cinéma et d'enrichir la programmation d'un lieu physique par d'autres contenus virtuels. J'imagine que c'est des problématiques que vous connaissez, puisque on va en parler tout à l'heure, du rôle de la VOD. Donc je me concentre vraiment sur les salles de cinéma. Le Film House à Édimbourg, qui est une salle en Écosse, depuis 2012, propose en fait un player sur leur site web pour montrer une sélection de films quand ils quittent leurs écrans. Certains publics en fait du Film House, c'est parti de ce constat-là, ne pouvaient pas toujours se déplacer dans la salle de cinéma pour plein de raisons. Des enfants à garder, la distance, la maladie. Et donc ils voulaient offrir à ces spectateurs la possibilité de voir certains films programmés au cinéma en ligne. Malheureusement, en fait, ils ont porté cette plateforme qu'ils portent toujours à l'échelle de leur salle. Donc l'accès à certains films, il est resté difficile. Il est complexe, évidemment, vous pouvez imaginer, de trouver un modèle économique viable à l'échelle d'une seule salle. C'est comme si vous, une médiathèque, voulez se créer une plateforme VOD. C'est énorme, considérable comme travail. Donc ça pose la question de la mutualisation. D'importants moyens sont nécessaires aujourd'hui pour créer ces plateformes VOD. Donc on a pu voir par la suite que de nouvelles initiatives sont en train de se monter, notamment Kino on Demand en Allemagne, qui depuis 2015 propose en fait aux salles de cinéma un player, exactement comme l'a fait le Film House sur leur site, mais ils proposent eux en fait de mutualiser le développement technique de l'interface et de négocier les films, ce qui permet en fait concrètement aux salles de proposer un bouquet de films complémentaires à leur programmation qu'ils programment eux-mêmes depuis leur site de leur salle. En France, une initiative du même genre est en train de se monter en partenariat avec la plateforme allemande. Ça s'appelle La Toile. C'est porté par Joséphine Létang, qui est une plateforme de VOD qui sera donc une marque blanche pour que les salles de cinéma puissent programmer des films et faire une extension en VOD. Sa plateforme, en fait, elle l'a adaptée du back-office allemand, ce qui montre aussi de la nécessité aujourd'hui de mutualiser finalement les efforts et de cette échelle européenne qui fait sens sur ce genre de projet numérique. C'était vraiment pour la petite aparté, parce qu'enrichir l'offre des cinémas, ça passe aussi par la manière dont on communique sur cette offre. Ça peut passer par du merchandising, des objets créés à l'effigie du cinéma qu'on met en vente, qu'on offre à des spectateurs, comme ici au Postmodernissimo, qui, en Italie, qui conçoivent des t-shirts depuis la salle, à chaque fois redesignés par un graphiste local. Donc c'est très drôle, quand on se balade à Pérouse, il y a pas mal de gens qui portent les t-shirts du Postmodernissimo. C'est devenu une vraie marque, en fait, une marque qui est valorisée localement. Ou par exemple, communiquer sur la vie de la salle, ça peut passer par une labellisation commune de séances. En Suède, le Bio Rio a créé un label avec d'autres cinémas suédois qui s'appelle le A-Rate, donc A-Rate. Ce label, il a été créé en fait pour sensibiliser les spectateurs à la question du genre. Pour être marqué A, pour ceux qui connaissent, en fait, le film, il doit passer ce qu'on appelle le test de Bechdel. Donc le test de Bechdel, ça implique qu'un film comporte deux personnages féminins qui ont des noms, qui sont nommés, qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Donc évidemment, c'est très suédois, mais ce test, il mesure évidemment pas la qualité d'un film, hein. Il mesure rien du tout. D'ailleurs, il permet de questionner la représentation de la femme dans l'industrie du cinéma aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en mutualisant la communication autour de ce même label, les cinémas, en fait, ils ont mené une action commune qui a porté au-delà des frontières. Ça a eu vraiment beaucoup d'impact, ce label. Les distributeurs, au début, leur riaient un peu au nez quand ces cinémas demandaient à marquer ce label A sur l'affiche. Aujourd'hui, non seulement les distributeurs appellent les salles pour avoir le label A, pour être bien sûr qu'ils pourront l'avoir, mais surtout les scénaristes contactent ces cinémas, ils envoient leur scénario avant la production des films pour savoir si le film sera labellisé. Pour montrer un peu l'impact que peuvent avoir des petites initiatives à partir du moment où elles sont mutualisées, c'est aussi une manière de valoriser l'offre qu'on propose. Et c'est la même chose qu'on soit dans une médiathèque ou dans une salle de cinéma. Rapidement, une petite aparté. Je voulais vous parler aussi des projections simultanées Skype par l'initiative du Festival de Rotterdam, qui organise en fait chaque année un événement dans les salles de cinéma qui s'appelle IFFR Live. Donc IFFR, c'est le nom du Festival de Rotterdam, Live. C'est une série de projections simultanées dans une quarantaine de salles de cinéma européennes. En fait, quand les projections du festival se terminent, par un débat, vous savez, avec l'équipe de film, en direct de Rotterdam, ces débats sont retransmis dans les salles partenaires qui ont diffusé le film en même temps et qui projettent le débat via Skype. Et la possibilité, elle est offerte aux spectateurs présents dans tous les cinémas en Europe de participer au débat via Twitter, via un hashtag et de poser des questions. Donc ça pose aussi plein de questions sur les possibilités aujourd'hui d'utiliser le numérique pour relier des lieux, faire des débats Skype, par exemple, faire venir des équipes de films, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les salles de cinéma. On a aussi vu des programmes d'éducation à l'image où on mettait, par exemple, la projection d'un film commun entre deux classes de deux pays, et après, on invitait les élèves à en discuter dans les deux langues. Donc voilà, le numérique offre comme ça, à la suite de projections, plein de possibilités pour étendre quelque part les murs des cinémas. C'est pour ça que je voulais juste le mentionner rapidement. Je voulais aussi vous parler de coopération entre cinéma, parce qu'en réponse à ces bouleversements en fait, de pratiques, de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de coopération entre cinéma permettent aux salles de trouver une synergie et de se fédérer à une échelle, qu'elle soit locale, nationale, internationale, pour construire des nouveaux modèles, pour partager des connaissances, des bonnes pratiques, pour organiser des événements communs. Juste deux initiatives qui pourraient faire écho à vos pratiques. Cinéville, je voulais vous parler plus particulièrement de cette initiative, la carte Cinéville, qui est une carte illimitée pour les cinémas indépendants aux Pays-Bas. Donc pour faire court, cette carte, elle a été créée à Amsterdam en 2009 par deux jeunes étudiants qui sortaient des cinémas Criterion. Ils souhaitaient rajeunir l'image des cinémas à réessai. Donc cette problématique du vieillissement des publics. Cinéville, ce n'est pas juste un modèle de carte illimitée, c'est surtout un média web qui promeut une nouvelle image des films à réessai et donc des salles, par une équipe de jeunes journalistes. Donc ça, c'était vraiment l'idée, de pouvoir comme ça rajeunir en fait l'image des lieux et l'image des films en mutualisant les moyens. La carte s'est révélée être un concept particulièrement réussi, puisque le succès il était considérable. Le rajeunissement du public il est incontestable, avec un âge moyen des porteurs de la carte entre 25 et 30 ans. La fréquence moyenne de la sortie en salle elle a doublé, générant 300 000 entrées supplémentaires uniquement sur la ville d'Amsterdam. Et aujourd'hui, il faut savoir que cette carte Cinéville elle s'est étendue dans tout le pays. Donc elle a dépassé la ville d'Amsterdam pour rejoindre 19 villes et 42 cinémas partenaires. Et ça a réellement permis de redynamiser l'image dite à réessai. Aujourd'hui, les jeunes aux Pays-Bas parlent plus de films à réessai, ils parlent de films Cinéville. Et un film Cinéville, c'est un film qui est cool et qu'on peut aller voir dans des salles, puisqu'en fait, on a une carte qui donne accès à la fois à la salle documentaire, à la salle que je vous ai montrée qui montre plus des films cultes, à la salle plus classique, et ça crée comme ça une circulation entre les lieux. Donc on parlait de circulation entre les médiathèques, les salles de cinéma, c'est un réel enjeu aujourd'hui si on veut répondre à des problématiques, notamment de vieillissement des publics. On ne peut pas penser à l'échelle d'un seul lieu, il faut penser à l'échelle des lieux culturels, à l'échelle des territoires, comment on rajeunit l'image, en l'occurrence ici, des films à réessai. Pour conclure, un dernier exemple de coopération, Scalarama. Scalarama, en fait, c'est une fête qui a lieu tous les ans au Royaume-Uni depuis 2009. Ce phénomène, il a pris pas mal d'ampleur, puisque l'an dernier, il y a plus de 500 événements qui ont été organisés sous la bannière Scalarama. Le principe de Scalarama, il est simple. C'est leur slogan, c'est « remplir le territoire de cinéma ». C'est des projections qui se déroulent à la fois dans des salles traditionnelles, dans des community cinéma, dans des bars, des salles de concert, dans la rue, des parcs, des médiathèques, chez l'habitant. L'esprit, il est vraiment proche de la fête de la musique en France, sauf que c'est le temps d'un mois en fait. L'idée, c'est vraiment de célébrer le cinéma sur un mois dans tous les lieux qui sont à même de montrer des films et de sortir un peu comme ça des films du mercredi pour les salles de cinéma commerciales, mais de se dire quels sont les films qu'on a vraiment envie de faire découvrir. Et y partager en fait quelque chose d'assez simple autour du cinéma. L'idée, pour résumer, en fait, c'est de servir du cinéma comme un moyen de célébration, provoquant aussi des collaborations entre des structures diverses qui aujourd'hui ne se connaissent pas nécessairement. Donc c'était vraiment un moyen, par cet événement, d'amener des nouvelles structures, type des médiathèques et des salles de cinéma, des bars et des salles de cinéma, à travailler ensemble, en se disant que c'est finalement les mêmes publics qui circulent et qui aujourd'hui c'est pour eux en fait. Et ils pensent que c'est important d'amplifier finalement ces collaborations pour créer plus de circulation. Scalarama, en termes d'outils, ils éditent chaque année un journal qui rassemble tous les événements, qui permet comme ça en fait d'avoir une cartographie à l'échelle de chaque territoire de ce qui se passe. Et au-delà des grilles horaires et des programmes, le journal y rassemble aussi toutes les informations nécessaires pour organiser une projection ou pour lancer une salle de cinéma, qui est aussi l'un des objectifs principaux de Scalarama pour professionnaliser les pratiques amateurs de diffusion et justement lutter un peu contre les projections pirates, mais expliquer aux gens qu'est-ce que c'est d'organiser une projection, qu'est-ce que c'est de diffuser un film et les accompagner en fait dans cette démarche. Donc voilà, je pense que c'est évident qu'on vit dans un monde qui a changé, où les pratiques, elles évoluent constamment, où le cinéma est clairement pas le lieu unique où on voit des films et où on se forge une cinéphilie, mais qui participe à ce qu'on pourrait appeler un environnement culturel étendu. Le numérique, il a poussé les cinémas, comme on l'a vu, à être plus proches des publics, à écouter avec attention leurs désirs. Et les cinémas, nous, qu'on a découverts, qu'on a visités, ils intègrent organiquement ces nouvelles pratiques, des nouveaux contenus, pour explorer de nouvelles directions de ce que la salle de cinéma peut être aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sur tous ces exemples que j'ai essayé de vous synthétiser, on a publié nous un rapport sur les pratiques émergentes dans les salles de cinéma en Europe, pour le CNC, qui est disponible sur notre site, tourdescinema.com, en français et en anglais.